Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h21 sur Europe 1. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Matignon. Il a été reçu cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal après l'annonce de son départ du lycée. Départ qui fait énormément de bruit. On va largement y revenir. D'abord avec vous, Laurent Zamekowski. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves. Merci d'être en direct dans Europe 1 soir. Je voudrais d'abord rappeler que le proviseur part parce qu'il ne se sentait plus en sécurité dans son établissement du 20e arrondissement de Paris. Il avait reçu des menaces de mort sur Internet liées à une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile, élève dont la plainte a d'ailleurs été classée. Et donc, quand il y a une altercation de ce type, c'est le directeur qui s'en va et l'élève qui s'en sort bien. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là.
Alors effectivement, là on est face à une situation exceptionnelle, mais c'est pas une situation normale, dans le sens où c'est la situation avec les réseaux sociaux qui a changé la donne. Lorsque c'est une situation qui est localisée et qui ne se trouve pas répandue sur la place publique et notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça évidemment que ça se passe. Là, malheureusement, ce proviseur se retrouve jeté quelque part face à une horde venant des réseaux sociaux et forcément, il y a une inquiétude et quelque part, sa réaction est totalement compréhensible. C'est extrêmement regrettable, mais tout à fait compréhensible. Je veux dire, c'est n'importe quelle personne qui pourrait tout d'un coup, un fou, venir s'en prendre à lui. Malheureusement, on a déjà vu ça avec l'horrible assassinat de Samuel Paty. Donc voilà, on apporte tout notre soutien et la compréhension à ce proviseur. Et bien évidemment, on ne peut que regretter forcément qu'on ne soit plus face aux réseaux sociaux en capacité de pouvoir protéger les personnes.
Oui, parce que vous dites c'est la faute en quelque sorte de l'amplification via les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vivent 100% quasiment du temps avec leur portable et leurs réseaux sociaux. Et c'est illusoire de penser qu'une affaire au sein d'un établissement scolaire peut échapper à ça. C'est inévitable.
C'est souvent les situations qu'on a de harcèlement qui tournent au cyberharcèlement, hein. Que ça soit bien sûr d'abord pour les élèves, mais dans ce cas-là pour un enseignant ou enfin un chef d'établissement. Donc c'est malheureusement l'impact qu'ont ces médias, ces réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés, dans lesquels on peut quelque part avoir une certaine impunité, heureusement pas totale, mais malheureusement encore aujourd'hui les gens ont l'impression de pouvoir dire et faire n'importe quoi, et on se retrouve avec une violence et une agressivité qui est totalement déraisonnée, déraisonnable et incontrôlée. Et donc forcément c'est extrêmement inquiétant.
Quelle est la responsabilité des parents, puisque vous représentez les parents d'élèves?
Alors en l'occurrence, l'élève en question, elle est majeure.
Elle est majeure,
donc,
certes,
c'est pas ses parents
mais de manière globale, dans ces problèmes d'autorité, dans le fait qu'un chef d'établissement se retrouve obligé de quitter cet établissement face à des menaces, est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une nécessité pour les parents en général, pas forcément les parents de cet élève évidemment, de prendre des mesures vis-à-vis de leurs enfants, ne serait-ce que de leur apprendre certaines bases de respect de l'autorité?
C'est heureusement la grande majorité, la très grande majorité des parents qui fonctionnent comme ça. Je veux dire, l'autorité d'abord des parents eux-mêmes et après l'autorité de l'école. Après, malheureusement, la société, vu qu'il ne va pas forcément très bien, des enfants qui échappent à l'autorité de leurs parents, qui se retrouvent influencés par d'autres personnes, plus bien évidemment aussi les adolescents qui sont déjà en rébellion. Donc vous vous doutez bien que tout ça cumulé fait que malheureusement des parents, même certains qui vraiment essaient de faire de leur mieux, se retrouvent parfois désemparés et incapables de pouvoir contrôler certains adolescents, bien sûr. Il ne faut pas non plus généraliser.
Bien sûr. Est-ce que vous êtes en relation avec les parents d'élèves du lycée Ravel?
Au lycée Ravel, les parents sont globalement tous consternés de la décision du proviseur de partir. Je veux dire, ils n'avaient absolument pas envie qu'il parte. Il faut quand même savoir une chose, c'est que le proviseur est là, bien sûr, l'incarnation de l'autorité, donc également de la sécurité. Et donc, lorsque celui-ci renonce, c'est également l'ensemble de la communauté éducative, c'est la sphère de confiance, de sécurité qui s'effondre. Donc ça crée un émoi terrible. Les parents sont absolument effondrés de son départ.
Si vous le voulez bien, on va prendre en ligne Odile qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Odile.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même professeur de français dans un collège et j'imagine que quand vous entendez ce qui se passe à Ravel, ça résonne et vous êtes extrêmement choquée.
Ben, je suis complètement révoltée parce que on n'imaginait pas ce qui s'est passé à Arras et on a l'impression que ça n'a pas suffi en quelque sorte. C'est-à-dire que on ne se sent pas soutenu. C'est-à-dire que s'est-il passé après Arras finalement?
L'assassinat de Dominique Bernard.
Voilà, on a beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup d'émoi, mais pour nous, dans les établissements scolaires, rien n'a changé. Il n'y a pas de sécurité. Il se passe rien. Et moi, je trouve que on n'est pas soutenu et je ne sais pas quelle est la pensée exacte de ce proviseur, mais je pense qu'il doit être désespéré parce qu'il ne doit pas se sentir soutenu, il a préféré démissionner. Donc Gabriel Attal l'a reçu aujourd'hui, mais certainement parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça. C'est avant qu'il aurait fallu réagir.
Gabriel Attal qui a dit sur la laïcité à l'école, zéro impunité, zéro complicité. Merci beaucoup Odile. Laurent Zamekowski, vous représentez donc la Fédération des parents d'élèves. Quand vous entendez cette enseignante de la Drôme qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité, vous en tant que parent, ça doit quand même vous inquiéter considérablement.
Mais bien évidemment, et on la comprend tout à fait. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle nous demandons régulièrement de pouvoir augmenter les effectifs, notamment d'assistants d'éducation. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, au collège, vous êtes pour environ entre un assistant d'éducation pour au moins une centaine d'élèves, voire plus. Donc vous doutez bien que c'est pas comme ça qu'on peut repérer, détecter des situations d'atteinte à la laïcité, des questions de harcèlement, des questions de violence, des violences diverses et variées. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important, et également aussi pour empêcher les intrusions, hein, soyons clairs, il est extrêmement important de pouvoir renforcer cette surveillance de manière à pouvoir pratiquer la prévention. Parce que justement, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir prévenir ces situations, de pouvoir les découpiller très tôt pour éviter qu'on se trouve aujourd'hui dans des situations comme ça.
Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEB, vous restez avec nous. On marque une petite pause et on va se retrouver juste après.
19h-20h, Europe 1 Soir.
19h33, nous sommes toujours en direct avec le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, Laurent Zamekowski, et nous sommes également avec Stéphane Didier, professeur d'histoire géo dans un établissement du secondaire dans le sud-ouest. Bonsoir, merci à vous aussi de nous rejoindre sur Europe 1. On a eu envie de vous avoir en ligne parce que vous avez expérimenté personnellement les menaces de mort et aussi le manque de soutien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qui vous est arrivé ?
Bonsoir Madame Zélani, bonsoir à vos auditeurs. Oui, donc cette affaire s'est passée dans un des trois collèges de Cognac. Ça s'est passé exactement le 16 décembre 2020, à la suite d'un devoir sur le Troisième Reich et les persécutions nazies à l'égard de la communauté juive. J'ai une de mes élèves de confession musulmane, qui a refusé de répondre aux questions et j'ai demandé pourquoi elle n'a pas fait son devoir, elle a refusé de répondre aux questions et donc elle n'a pas donné de réponse et donc je lui ai mis une note qui était de 0 sur 20 et elle a ensuite monté une cabale contre moi en prétextant que j'avais eu des propos islamophobes et des propos à caractère raciste et c'est lors de l'entrevue avec la mère de famille, deux mois après, jour pour jour, le meurtre de Samuel Paty, qu'une altercation a éclaté en salle de rendez-vous avec les parents au moment de cette affaire. Et elle m'a accusé d'en avoir fait trop autour de l'affaire de Samuel Paty. C'était une accusation directe. Elle contestait également mes cours au sujet de la laïcité et que j'étais un professeur raciste, etc. Et donc la conversation a très vite dégénéré, puisque j'ai eu des menaces directes me demandant de bien réfléchir à ce qui était arrivé à Samuel Paty, et que cela ne serait pas sans conséquence.
Alors donc, donc vous avez subi ces pressions, ces menaces de mort. Quand vous avez entendu ce qui s'est passé à Ravel, quand vous apprenez hier que le proviseur s'en va, comment vous réagissez?
Il y a, autour de cette affaire, il y a trois choses. D'abord, ce que je veux dire, je vais élargir mon analyse, si vous voulez. D'abord, premièrement, c'est un succès politique et un succès de société pour les islamistes. On a un serviteur de l'État qui a été victime d'attaques à la fois sur Internet, et on a les mêmes paramètres que l'affaire de Samuel Paty, d'accord ? Et c'est une victoire politique dans le sens où les islamistes ont réussi à affaiblir la communauté nationale en établissant une nouvelle forme d'identification, on le voit là, à partir d'une demande politico-religieuse, pour couper les citoyens de la communauté nationale. C'est aussi une victoire du séparatisme. Le voile islamique est un marqueur identitaire et qui permet aux musulmanes de se distinguer des autres populations. À ce que je sache, l'élève en question n'a pas été sanctionné. Elle n'a pas été, je dirais, rayée des listes de l'établissement. Alors qu'on a dans le même temps un chef d'établissement qui, lui, a dû partir. Une fois de plus, ce sont les islamistes qui ont l'initiative et c'est les représentants de l'État qui subissent les événements. D'accord ? Donc, ce qui m'amène à penser que, deuxième point, c'est une défaite considérable pour la République, malgré qu'il y a évidemment un soutien de l'exécutif. On a vu l'action de Madame la ministre de l'Éducation, Madame Belloubet, et aussi il a été reçu par Monsieur Attal, mais oui. Je dirais que tout ça c'est un cautère sur une jambe de bois, puisque il n'empêche que on a, je ne remets pas en cause la détermination de l'exécutif, mais là où ça ne va pas, c'est à l'étage en dessous, si vous voulez. On a une administration qui est le rectorat, qui semble frileuse, affaiblie. Je dirais même sclérosé, et c'est ce qui m'est arrivé, parce que moi je n'ai pas été soutenu par le rectorat de Poitiers à l'époque, d'accord, j'ai eu aucun soutien de mon rectorat, je n'ai pas été reçu par la rectrice de l'académie, moi j'ai pas eu de ministre pour me recevoir, ouais. Je me suis retrouvé tout seul, face, même mon chef d'établissement ne m'a pas soutenu, alors qu'il est toujours en activité, je vous signale.
Stéphane Didier, vous soulevez plusieurs points. J'aimerais juste faire réagir deux secondes de Laurent Zabekowski, porte-parole de la paix, parce que vous avez dit, il y a des mots forts. Vous dites que c'est une défaite pour la République et que le rectorat s'est montré frileux. Est-ce que vous partagez cette analyse, Laurent?
Déjà, je voudrais apporter tout mon soutien à un monsieur qui témoigne, et ce qu'il a subi est totalement inacceptable. Soyons très clairs, certains, malheureusement, il faut pas faire de généralité, mais je veux dire, c'est effectivement, certains parents ont des comportements qui dépassent l'entendement et qui ne sont pas corrects, et je peux comprendre. Voilà. Après, au-delà de ça, on est aussi face à un système qui est avec une administration qui est parfois, même très souvent, malheureusement, sourde et aveugle, qui fonctionne comme une mécanique, qui s'autoprotège.
C'est grave, ça, c'est grave.
Mais bien sûr, mais le problème, c'est que c'est pas qu'à l'éducation nationale. C'est à peu près dans toute l'administration française. On a une mécanique, finalement, on se rend compte que quelque part, même une intelligence artificielle arriverait à mieux faire.
Sauf que là, il y a des vies en jeu à la fin du compte.
Mais exactement, je vous rappelle ce qui s'est passé lorsque l'Académie de Versailles a envoyé la lettre au parent Nicolas qui s'est suicidé. C'est le même acabit. Je veux dire, c'est une administration qui est maltraitante et maltraitée aussi, qui se sent maltraitée. Il faut voir ce qui se passe. C'est une situation ubesque et dont tout le monde souffre. Il y a des questions en profondeur qui doivent se poser pour pouvoir arriver à dépasser ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une espèce de mécanique implacable sur lequel aussi bien les enseignants, les chefs d'établissement, les parents, on est tous confrontés à ça. et ceux même qui participent à cette mécanique, eux-mêmes ne sont pas heureux. Donc il y a un vrai problème, il y a un fonctionnement qui est défaillant de manière globale, et il faut vraiment se poser des questions de fond, et il y a une remise en question globale des mentalités au sens large.
Alors vos constats tous les deux sont très très graves et très inquiétants. Isabelle, vous nous appelez d'Île-de-France, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous aussi, vous faites ce type de... Vous n'êtes pas enseignante, hein, à ma connaissance.
Du tout.
Non, mais par contre, vous faites ce type de constat assez catastrophique de la situation de l'enseignement et du peu de soutien que reçoivent les enseignants.
Exactement. Et je pense qu'il manque quelque chose. Chaque matin, je pense que tous les enseignants feraient bien de donner aux enfants des leçons de morale. C'est-à-dire qu'ils auraient une heure afin de pouvoir...
C'est-à-dire quel type de message vous souhaiteriez qu'on transmette aux enfants?
Ben, vous savez, des morales comme dans le temps, ma grand-mère a sûrement eu à l'école. C'est-à-dire qu'on leur dise que ben, on est en France, on est en France et on doit absolument suivre le régime français, rester français dans notre tête. Et on n'a pas le droit d'avoir un voile sur la tête, de passer droit, comme ça s'est passé pour cette personne qui a été interpellée par le proviseur, de venir habillée comme on a envie de l'être à certains moments. Et il est hors de question de laisser ses enfants... essayer
de ne pas respecter la laïcité.
Ils sont chez eux, respecter la laïcité. Voilà.
Merci Isabelle. Le porte-parole de la PEP, Laurent Zamekowski, réagit à ce que vous dites aussi. Ce problème de respect de la laïcité, est-ce que vous pensez qu'il est central aujourd'hui dans les établissements?
Alors il y a la première chose, c'est que les adolescents, il y a toujours une espèce de forme de rébellion. Hein. Je reprenais un film des années 50 avec Glenn Ford qui s'appelle Graines de violence. C'était déjà le cas. Il y avait des situations d'agression d'enseignants, etc. C'était il y a 70 ans. Mmh. Donc vous doutez bien qu'en 70 ans, on n'a toujours pas réglé le problème. Après, au-delà de ça, les atteintes à la laïcité, effectivement, mais il y a aussi quelque part cette laïcité qui s'est un petit peu perdue, malheureusement. Mais c'est parce que quelque part, on a eu cette époque où finalement les choses se posaient pas forcément autant, et puis il y a des générations et des générations qui ont pris une distance parce que c'est quelque chose qui nous semblait normal et qui aujourd'hui aussi bien d'ailleurs de la part des parents, des enseignants, et qu'on n'a pas forcément aussi bien transmis. Mmh. Et donc il y a une remise en question globale et générale de tous. Hein. Je veux dire, il faut pas stigmatiser en disant c'est les uns ou c'est les autres. Je veux dire, les enfants finalement ils sont ce qu'on a produit.
Exactement.
Et pas seulement les parents, c'est l'environnement, c'est tous. Il y a un problème collectif. Et on peut s'en sortir que tous ensemble.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération de parents d'élèves. Un grand merci également aux auditrices, aux auditeurs qui nous ont appelés, et à Stéphane Didier, professeur d'histoire géo dans un établissement du secondaire du Sud-Ouest. Avant la pause, un conseil, ne manquez pas demain Culture Média de 9h30 à 11h. Toute l'actualité culturelle avec Thomas Hill et ses chroniqueurs. Et un grand moment en perspective, l'invité de Culture Média sera le chanteur Grand Corps Malade. Il interprétera un titre en direct, uniquement pour vous les auditeurs d'Europe 1. A tout de suite pour évoquer le succès des baptêmes, aussi bien chez les ados que chez les adultes.